Ouais, salut Blockbuster, ici Calico. Je voulais vous remercier pour ce super épisode sur Kaamelott. Petit témoignage personnel, cette série, je la connais depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4 ans. Les répliques sont restées gravées dans ma tête et je suppose d'ailleurs dans les vôtres, si j'en juge par votre émission. Donc, merci encore pour ce super épisode et bonne continuation.
Je suis ravie de vous avoir entendu et je crois que j'écouterai Kaamelott maintenant. Alors, j'ai 92 ans, j'avais jamais entendu avant. Bisous.
Salut Fred, alors j'ai adoré toutes tes émissions, mais alors là j'en peux plus, parce que Lost, j'étais passé à côté, mais je me suis fait 18 heures le week-end dernier, la saison 1, 33 jours, et là je suis sur la saison 2, laisse-moi mes week-ends s'il te plaît Fred, laisse-moi mes week-ends, merci.
Je suis un petit peu déçue que dans votre émission concernant Kaamelott, personne n'ait parlé de leur personnage préféré en parlant d'héroïne. Moi, j'aime Anne Girouard, j'aime la reine Guenièvre, elle est absolument géniale. Bon, vous avez un peu parlé d'Audrey Fleurot, qui est une fée absolument déjantée, drôle, maladroite. Génial, mais on peut parler aussi de Vanessa Gedge, puis la maman d'Alexandre Astier et sa belle-mère, qui sont toutes les deux géniales. Enfin bon, il y a plein d'héroïnes féminines. Héroïne féminine, voilà, là t'as un beau mot là, voilà, héroïne féminine. Les héroïnes masculines sont, moi je trouve, moins intéressantes, voilà.
Et j'ai réagi quand j'ai entendu votre invité dire, on dirait que les fans écoutent ça tous les jours. Bah ouais, carrément, moi je le mets en fond quand je fais la cuisine, le ménage ou quoi que ce soit, et les vannes, même au bout de la 10 000e fois, me font toujours marrer. Bisous.
To be or not to be, not to be.
Rocky n'est pas un film de boxe. Enfin, je veux dire, si, c'est un film avec de la boxe dedans. C'est-à-dire, si un soir, au hasard d'une rediffusion, vous tombez dessus, il y a tout de même de fortes chances qu'à un moment du film, il y ait deux gars en short tout plein de sueur qui se mettent des patates de bûcheron. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas que ça. Rocky, c'est un film sur la lutte des classes et le déterminisme. Rocky, c'est le film que les frères Dardenne auraient rêvé d'écrire. Je vous explique. Rocky Balboa est un italo-américain qui vit dans un quartier pauvre de Philadelphie. Il boxe, mais loin d'être bon, n'a pas beaucoup de vocabulaire, on devine que son cursus scolaire n'a pas dû aller bien loin, et que chaque mois, il a l'angoisse de savoir comment payer son loyer. Dans le quartier, il connaît tout le monde, mais tout le monde le connaît aussi. Vous demandez à quelqu'un qui est l'italien au chapeau noir qui joue toujours avec une balle au caoutchouc, tout le monde vous dira « Ah, mais ça c'est Rocky !» Rocky, il est amoureux d'Adrienne, une jeune fille introvertie, qui travaille dans une animalerie et qui se cache derrière de grosses lunettes. On a sûrement dit à Adrienne tellement souvent qu'elle était moche qu'elle a fini par le croire. Mais le Rocky, lui, il l'aime. Un jour, Apollo Creed, le champion du monde de boxe, propose un match à Rocky. Non pas parce qu'il voit en lui un adversaire de valeur, mais parce qu'il sait qu'aux yeux de l'Amérique, donner sa chance à un sans-dents anonyme fera un super coup marketing. Rocky ne peut pas gagner, et d'ailleurs il le sait. Simplement pour une fois dans sa vie, Rocky va décider de ne pas interpréter le rôle que la société a écrit pour lui. Il va se battre non pas pour gagner, mais pour tenir la distance, pour ne pas rester à la place que le système estime être la sienne. Au sol, un genou à terre. Quand je vous disais que c'était pas un film de boxe.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça là.
Frédéric Siglist.
Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette malle. Et en tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.
Alors que le cinéma américain s'est toujours plongé dans la littérature ou la bande dessinée pour trouver des franchises à adapter, en 1975, Sylvester Stallone, un acteur alors sans emploi et sans le sou, décide de plonger en lui pour créer un des personnages de cinéma les plus connus de la culture populaire, Rocky Balboa. Si Stallone a créé Rocky, on peut dire que c'est également Rocky qui a créé Stallone. indissociables l'un de l'autre depuis maintenant 4 décennies, Rocky est en quelque sorte une sorte de journal intime de la vie de Sylvester Stallone. Chaque Rocky, hein, voilà, fallait la faire celle-ci, chaque Rocky a dit quelque chose de profondément intime sur l'état d'esprit de Stallone. De ses débuts modestes à son évolution en star des films d'action des années 80, ses crises d'ego avant une traversée du désert au début des années 2000, qui s'est achevée en 2006 avec un retour aux sources, le retour évidemment de Rocky Balboa. Pour parler de cette saga culte du cinéma, j'ai avec moi, et c'est un honneur, Alain Dorval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la voix française de Sylvester Stallone.
Oui, en tout cas depuis le premier Rocky, oui.
On est ravis. Alix Dulac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sportif et pop culture.
Exactement.
Jean-Baptiste Toussaint, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vidéaste, auteur de la chaîne YouTube Tales from the Click.
Exactement, et je dois dire que je suis très ému d'être à côté d'Alain Dorval et d'entendre sa voix. Voilà.
On l'est tous un peu. Ouais. Et évidemment, Dedo, que beaucoup d'auditeurs réclamaient à corps et à cris, en était même devenu un petit peu gênant. Bonjour.
Bonjour, je suis très content d'être de retour.
Voilà, comédien et humoriste, auteur de l'émission Histoire racontée par des chaussettes que l'on peut retrouver sur YouTube et désormais co-animateur de Blockbuster.
Oui, tout à fait. Bah écoutez, avec plaisir.
Ensemble, on reviendra sur la création de Rocky, ses origines, son inspiration principale. On parlera de la bataille de Stallone pour avoir le rôle, alors même qu'il en avait écrit le scénario. On parlera de ses différents épisodes, qui sont autant un voyage dans la vie d'un acteur qu'une histoire de l'Amérique. Et enfin, on vous prouvera, à l'heure où il est de bon ton de tout mettre dans le même panier, que derrière cette franchise faite avec franchise, il y a des films avec des vrais morceaux de films d'auteur dedans. Blockbuster spécial Rocky, premier round, c'est parti.
Hey Mickey.
Time. Qu'est-ce que tu veux encore?
Ça va aujourd'hui?
Ouais.
Je me demande si ça va.
Ça peut se foutre, hein, t'es pas occupé,
non? T'as des problèmes ou quoi?
T'occupes pas de mes problèmes, qu'est-ce que t'as comme problème?
Mon problème à moi, c'est que j'ai parlé à Mike et je veux savoir pourquoi tu m'as viré de mon vestiaire.
Parce que Dipper en a besoin. Dipper, c'est un battant. Et il grimpe, toi, tu sais ce que t'es?
Quoi?
T'es une nouille.
Comment ça?
Pour dire les choses carrément, j'entraîne des poulains ici, je tiens pas la soupe populaire. T'as fait un combat hier soir?
Ouais.
Tu l'as gagné?
Ouais, monsieur, par KO au deuxième.
Et contre qui que t'as tiré?
Spider Rico.
Ah, c'est un tocard, une mauviette.
Tout ce que je m'attrape, tu dis que c'est des minables.
Parce que c'est faux. T'as du cœur, mais tu te bats juste en faisant des ronds de manivelle. La seule chose que t'as un peu pour toi, c'est que tu t'es jamais fait casser le nez. Ben, reste-en là, tiens-toi peinard, vu que t'as encore la tête qui fonctionne à peu près.
C'est Mickey, je crois que je vais aller prendre un bain chaud. Et tu sais pourquoi? Parce qu'hier soir, j'ai fait un bon combat. T'aurais dû me voir, d'ailleurs.
Ah là là.
Et toi aussi, t'aurais dû me voir.
Hey, Rocky, t'as encore jamais pensé à raccrocher?
Non.
Une vraie pourtant. Allez, time. Hey, hey.
C'était un extrait du premier Rocky, un échange entre Sylvester Stallone et Burgess Meredith. Donc, revenons sur la genèse de Rocky. Jean-Baptiste Toussaint, expliquez-nous d'où vient Rocky.
À la base, Rocky, ça vient de l'imagination de Sylvester Stallone, mais ça vient aussi d'un match de boxe qu'il regarde un soir alors qu'il n'est personne. Un match de boxe entre un obscur Irlandais de troisième zone et le grand Mohamed Ali. Donc tout le monde s'attend à une victoire d'Ali, sauf Chuck Wepner. D'ailleurs, il y a eu un film sur lui récemment. Et en fait, c'est la surprise générale. Chuck Wepner parvient à faire tomber Mohamed Ali. Donc il perd le match, mais il parvient à faire tomber la star. Et Rocky regarde ça et se dit, bah tiens, j'ai envie d'en faire un film. Il écrit le film en 3 jours seulement, le propose à des producteurs qui trouvent ça très cool. Sauf que eux, ils veulent Robert Redford et plein d'autres acteurs de premier rang pour interpréter le rôle titre. Sauf que Stallone tient, il lui propose $150,000, je crois, si je dis pas de bêtises. Et le mec a tenu quand même. Alors qu'à cette époque-là, il dormait parfois dans des gares, dans des trains. Il n'y avait plus d'argent. Et finalement, il a tenu pour jouer le rôle et ça avait fait un carton. Ça a gagné l'Oscar en 77, je crois.
Et d'ailleurs, quand il a proposé le scénario, les producteurs, comme vous l'avez dit, ne désiraient pas avoir Stallone. Mais ils lui ont proposé une somme bien plus importante que ce qu'il a eu finalement, s'il ne jouait pas dedans.
Ouais, c'est monté à $350,000. Donc à l'époque, en 76, ça fait du x10. Ça a vraiment changé complètement sa vie. Et je crois que c'est le meilleur refus de l'histoire de l'humanité.
Oui. Et d'ailleurs, à l'époque, il était en galère. Il y trouvait pas de travail. Il essayait de passer des castings, mais ça marchait pas forcément. Son agent ne le rappelait jamais. Il avait même postulé pour faire de la figuration dans le Parrain. Et les producteurs de l'époque lui avaient dit, vous ne faites pas assez italien.
Ouais. Alors qu'il est italo-américain, donc c'est d'autant plus déstabilisant quand même. Et puis ouais, ça a complètement changé. Il avait même mis le chien qu'on voit dans Rocky Budkus. Il l'avait justement échangé contre de l'argent. Il l'a récupéré entre temps. Donc c'était vraiment, il avait plus rien. Il vivait il avait $116 sur son compte en banque. Il vivait dans une caravane. Et puis voilà, c'est l'American Dream complètement incarné pour le coup.
Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'il avait justement vendu son chien qu'on voit dans le film, la Budkus, pour je sais pas, je veux dire $50, quelque chose comme ça. Et quand il a voulu le racheter 2-3 jours plus tard, lorsqu'il a vendu son scénario, le type était au courant et il lui a revendu beaucoup, beaucoup plus parce qu'il savait qu'il avait de la thune. Et voilà, c'est terminé comme ça. Mais il avait déjà fait une apparition dans un film de Woody Allen juste avant.
Dans Bananas, ouais.
Exactement, voilà.
Et alors, le film Rocky a coûté très peu d'argent pour être produit. Hein. On est en dessous du million, je crois.
Non, 1,2 million, je crois.
Ouais, 1,2 million. Et pour des recettes pour le premier qui à 178 millions de dollars. C'est énorme pour l'époque.
Ouais, c'est
ça en fait l'équivalent d'un film
blockbuster
actuel avec l'inflation.
Non. Puis ça a justement du coup lancé la saga. C'était absolument pas prévu. Enfin, même si Stallone avait apparemment scripté les trois premiers, mais il espérait pas que ça marche autant. Et c'était voilà, personne y croyait. Même United Artists, le distributeur, s'est dit bon, on verra. Et puis c'est ça qui est surprenant. Et puis je pense que c'est aussi le côté hyper populaire du héros qui a fait que tout le monde s'y retrouvait et que ça a engendré ce succès incroyable.
Et puis des choix, des choix aussi même en termes de casting autour de Stallone, la Talia Hirsch qui joue Adrienne, cette petite vendeuse dans une animalerie, toute cachée derrière ses lunettes avec son frère Polly qui ne cesse de la martyriser et de la rabaisser. C'est vraiment le choix de faire un film sur les petites gens en fait.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est un film sur même au-delà de ça, d'ailleurs, tu l'as très bien dit, c'est pas un film sur la boxe, c'est un film sur la résilience avant tout. C'est quelqu'un qui résiste, et qui essaye de s'en sortir. Et d'ailleurs, on se rend compte sur toute la saga que Rocky a beaucoup plus perdu que gagné. Dans le premier, il perd, mais bon, ça fait une victoire, morale et aux yeux du peuple qui le rend justement hyper iconique. Mais il perd Mickey, il perd son entraîneur, il perd, forcément son meilleur ami, qui devient ensuite une sorte d'icône dans le 4.
Il perd son argent.
Donc voilà, c'est beaucoup plus quelque chose qui est axé sur la perte que la victoire. Et c'est ça qui est intéressant dans cette saga, de mon point de vue.
C'est d'ailleurs un trajet qui est parallèle à celui de Sylvester Stallone. Ouais. C'est-à-dire que le parcours de Rocky en tant que boxeur consacré, c'est aussi le parcours de Sylvester Stallone, l'acteur, Alex Dulac.
Tout à fait. Hein. Ils l'ont très bien dit. Je les écoute religieusement parce que du coup, ils sont parfaits en tout point. Non, mais voilà, on sait que Stallone a eu beaucoup de problèmes financiers avant Rocky. Rocky, c'est un peu le rôle de sa vie. C'est le film qui le sort de la mouise. Et le parcours, je trouve, retrace bien toutes les difficultés qu'il y a eu. C'est pas seulement un film ou une saga sur un loser qui devient quelqu'un de grand finalement et qui accomplit sa vie avec ce qu'il perd, avec les pertes qu'il a tout au long de son parcours. C'est aussi l'histoire de Stallone dedans, quoi, qui met un petit peu de son histoire personnelle dans Rocky. Et ça, je trouve ça très bien.
Alors on va continuer de parler de Rocky, mais pour l'instant on va écouter non pas Eye of a Tiger parce que c'était trop évident. On va écouter un de mes petits plaisirs coupables issu de la VO de Rocky 4. Quand j'ai parlé de ça à Muriel Perez, la programmatrice musicale m'a dit non. Non, pas ce morceau, je dis bah si. No Easy Way Out est interprété par Robert Tepper. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Perez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mansip, et à la technique aujourd'hui, Charles Pellabon, Ludovic Asselot et Florent Bujon. Hands of fate, something's all worth fighting for.
Baby, baby, we can share this skin. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did or lied. Something's so worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another chance. I just wanna know why. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out. Giving it can't be wrong, no. There's no easy way out. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no shortcut home. There's no easy way out. There's no easy, no easy, no easy way out. There's no easy way out. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no shortcut home. There's no easy way out. There's no easy, no easy, no easy way out. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out.
C'était No Easy Way Out de Robert Tepper dans Blockbuster sur France Inter.
Vous savez quand j'ai commencé à boxer ? Hein ?
Non.
3 minutes !
Bah, mon père, enfin, c'était pas une lumière. Il disait toujours, t'es pas tellement gâté côté de ciboulot, alors tu devrais surtout te servir de tes muscles, quoi. Alors c'est comme ça que j'ai fait boxeur. Et le rapport ?
Oui.
Pourquoi vous rigolez ?
Ah bah, ma mère, elle disait exactement le contraire.
Ah, elle disait le contraire, comment ça ?
Elle disait, t'es pas tellement gâté pour le physique, vaut mieux que tu travailles des ménages.
Elle disait ça ?
Eh oh, terminus!
Je peux vous poser une question?
Un peu, ouais.
Pourquoi vous voulez boxer?
Je sais ni chanter ni danser.
Nous sommes toujours avec le doubleur Alain Dorval, le journaliste Alix Dulac, le vidéaste Jean-Baptiste Toussaint et l'humoriste Dedo pour parler de la saga Rocky. Et durant l'extrait, Alain Dorval, vous parliez de l'écriture de Sylvester Stallone.
Bah, on vient d'en avoir un exemple, là. Ça s'y discute pas, quoi.
Mais ce qui est fou, c'est que...
Ce qui me sidère, si vous voulez, c'est le fait de quelqu'un, que j'appelle un homme protéiforme, hein, en musique, on dirait un homme orchestre, quoi. Il joue de tous les instruments. C'est-à-dire qu'il part de l'écriture, de son imagination, parce que c'est pas seulement le personnage qu'il a créé. Il crée le personnage, mais dans un contexte, avec le port, le truc, le machin, etc. Tous les gens qui gravitent autour de
Rocky. Tous les quartiers de Philadelphie.
Oui, et chaque fois, il y a une espèce de tableau je sais pas, au 18e siècle, on appelait ça des œuvres où on voit des gens, c'est une tranche de vie qui est pas seulement la sienne. Et c'est passionnant. En plus, il écrit merveilleusement bien pour les femmes.
C'est vrai.
Ce qui est quand même important. Et puis, je crois qu'il aime les gens. C'est aussi con que ça. Il leur donne les moyens de s'exprimer, en particulier je pense au personnage de Polly, on en parlait tout à l'heure, hors antenne pardon, auquel il a donné de plus en plus d'importance. Alors que...
Polly qui est le frère d'Adriane.
Voilà, qui est, c'est une horreur quoi, et il en fait un personnage merveilleux. Quoi. Enfin, Burt Young extraordinaire, c'est d'ailleurs Serge Chauvion qui était la voix de ce personnage. Alors ça m'amuse parce que souvent les gens me disent, peut-être qu'on te reconnaît entre mille. Et Serge Chauvion était la voix de Pauly, et personne ne m'a jamais dit c'est Columbo. Alors c'était lui aussi. Vous voyez, donc, mais Serge était un comédien, donc il s'adaptait à l'image qu'il avait en face.
Et votre première rencontre avec Rocky, quand on vous a demandé de doubler Stallone pour le premier Rocky, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez senti tout de suite le potentiel?
Non, parce qu'en plus, c'est pas le genre de choses qui me soucie. Non, la seule chose, c'était l'envie de le faire. Oui, parce que le personnage sortait du commun. C'était pas... Il y avait un côté anormal, enfin. Ce dont je me souviens, c'est que, bah, vous savez, quand on double un film, le texte est détecté au départ, traduit, adopté, etc. Mais il y a des choses qu'il ne sont pas. Il passait son temps à renifler, ça paraît très con. Mais c'est un tic qu'il s'est donné, qu'il n'a pas... dans d'autres personnages, il n'a pas ça. C'est un tic qu'il s'est donné, comme ça, et c'était très marrant, quoi.
Et c'est un film qui a remporté l'Oscar.
Ouais. Ah oui, l'Oscar de la réalisation et celui du montage aussi. Et tous les comédiens ont été nominés dans leur catégorie, de Stallone à Burt Young, Burgess Meredith, Ali Asher, enfin bon, c'est...
Surtout, il a eu l'Oscar du meilleur film, donc en 77, et il faut savoir qu'à l'époque, il a gagné devant des films incroyables, dont Les Hommes du Président de Pacula, qui reste maintenant aussi un grand pan du cinéma, et Network de Sidney Lumet. Il y avait Taxi Driver aussi ?
Je crois aussi, ouais.
Wow, c'est fou, ouais,
parce qu'il me semble que c'est Nicholson qui a remis le prix.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on voit des images.
Bah, il cite Taxi Driver.
Ah bah, c'est pas étonnant. Et d'ailleurs, il dit à la remise des prix à tous les rookies du monde, voilà, je dédie ce film à tous les rookies du monde, ce qui est déjà une superbe accroche pour dire qu'effectivement tous les gens qui se bagarrent peuvent y arriver. Et voilà, jusqu'au bout, ça a été quelque chose qui parle de ça.
Alix Dulac, la rencontre avec l'univers de Rocky, c'est pas forcément Rocky 1
pour moi. Non, c'est le troisième.
Avec Mr. T.
Ouais, Mr. T.
L'œil du tigre.
Et cette fameuse phrase, j'ai arrivé, dégage, tu pues la défaite, qui pour moi est extraordinaire. Elle m'a marqué étant gamin. Je l'ai ressorti au collège et au lycée copieusement, quoi. J'ai trouvé cette phrase, cette punchline extraordinaire, quoi.
Le 3, c'est l'arrivée du méchant. C'est du vrai méchant dans la saga, quoi. Qui ensuite, il y a eu Ivan Drago dans le 4, avec Dolph Lundgren qui est ce monstre-là. Et donc voilà, on a eu ensuite Tommy Morrison dans le 5, mais essayons d'éviter de parler du 5 parce qu'il est dérangeant pour tout le monde. Mais grâce au 5, il y a eu le 6, donc quelque part, il a sa place dans cette saga-là.
Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir. Moi, je suis originaire de quartier, et s'il y a bien une licence, s'il y a bien une franchise qui a vraiment marqué énormément de jeunes issus de la diversité et de l'immigration, c'est Rocky, parce que le parcours de Rocky, c'est le parcours d'un immigré aux États-Unis qui refuse en fait de rester à sa place, et c'est quelque chose qui parle énormément en fait à toute une jeunesse aujourd'hui.
Non, mais Alex, c'est un formidable upgrade, hein, Rocky. On parlait tout à l'heure du rôle d'Adrienne. Il faut savoir que le rôle d'Adrienne, c'est celui qui me scotche le plus, quoi.
Oui,
quand je revois Rocky, c'est vraiment un personnage qui me scotche le plus. Quand on voit l'évolution d'Adrienne lors du premier Rocky et ensuite jusqu'au 2, 3, 4, c'est juste fantastique, quoi. Elle sait à peine deux mots, deux phrases, elle est toute timide, toute coincée, on a vraiment l'impression, en plus ce qui est génial c'est que c'est deux paumés qui se rencontrent, enfin, je trouve ça vraiment top, et à la fin voilà, c'est vraiment une femme, quoi. Au-delà d'être la femme d'un boxeur connu, reconnu, qui a gagné, perdu, etc., ça devient réellement une femme, quoi.
Là où t'as raison en plus, c'est que c'est une saga éminemment romantique, Rocky, parce que Adrienne, quelque part, donne une seconde vie au personnage de Rocky. C'est elle qui l'emmène vers ça. Et ils sont tellement liés que dans le 2, à la fin, quand il bat enfin Apollo, on entend Rocky à la fin du film qui dit « Adrienne, I did it ». Et dans le 6, quand Adrienne n'est plus là, sans faire de spoiler, mais là quand même c'était il y a longtemps, il dit « Adrienne, we did it ». Donc vraiment, ils sont unis jusqu'au bout. On ne se rend pas compte à quel point cette saga-là est une saga qui parle de romantisme, de fidélité. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que les gens continuent de s'y retrouver.
Mais il y a un truc qui est très joli aussi, d'ailleurs. Depuis qu'elle n'est plus là, physiquement, il va sur sa tombe tous les jours. Il y va pour être avec elle. Il lui lit le journal.
Elle est toujours aussi présente, quoi.
Voilà. Et à côté, il y a la tombe de Polly.
C'est ça.
Et sur la tombe de Polly, il apporte une bouteille de whisky. Ce sont des idées de scénario que je trouve magnifiques. Ouais. Voilà.
Alors, je suis entouré par des experts, mais la question qui se pose, c'est le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant Rocky. Saurez-vous y répondre ? Dans Rocky 2, on voit Rocky s'entraîner dans un abattoir où il tape dans des grosses carcasses de viande. Et à l'époque, on se disait « Oh, le pauvre !» Mais aujourd'hui, avec la prise de conscience de la souffrance animale, est-ce qu'on n'aurait pas plus mal pour l'animal ?
Je vois pas comment on pourrait avoir mal pour un animal qui est mort.
C'est bien de l'avoir remarqué.
À tout hasard. Mais on dit que c'était, paraît-il, inspiré d'une réalité de Joe Frazier.
Paraît-il. Qui allait s'entraîner dans des...
Paraît-il. J'étais pas là, j'étais pas né à l'époque.
Question suivante. Dans Creed, on apprend que Rocky et son fils ne se parlent plus, et on ne sait pas vraiment pourquoi. En même temps, est-ce que vous parleriez encore à votre père s'il vous avait appelé Rocky Junior ?
C'est très américain.
Mais non, vous savez pourquoi il ne lui parle plus ? Parce qu'il a fait le 5, qui est un four.
C'est ça, en fait, il a vu le film. Pour devenir fort, Rocky a souvent des méthodes iconoclastes. Il va couper du bois, il fait des trous dans le désert avec un maillet, il monte des escaliers. J'ai un oncle qui travaille dans le BTP et qui fait tout ça tous les jours, mais qui fait 130 kilos. J'aurais aimé savoir ce qui faisait mal.
Ce qui faisait mal, lui ?
Oui.
Comment s'appelle ton oncle ?
Christian.
Bah, tu vois, Christian, ça marcherait moins bien que Rocky en film, c'est dommage, mais ça pourrait faire quelque chose de très intéressant. J'irais voir Christian 4, moi, personnellement.
Tu penses que c'est juste lié au prénom ?
Ah, je pense, oui. Ouais. Bah ouais, Christian.
La saga de Christian.
T'irais voir Jean-Pierre. Jean-Pierre, le champion du monde de curling ? Non.
Ah, me tente pas.
Ah ouais, au revoir. S'il est résilient, pourquoi pas ?
Allez, une fois de plus, vous avez été merveilleux, mais attention, afin que ça ne vous monte pas à la tête, on va prendre une grande inspiration et écouter L'Homme Pâle avec Évidemment.
Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi ? Pourquoi je serais différent des autres ? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en van. Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. À 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que des connes, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages. Ouais, bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gaffes, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'heure. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais. Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant.
C'était L'Homme Pâle avec Évidemment.
Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter.
Je lis ici que Mac Ligreen souffre actuellement d'une fracture du troisième métacarpe de la main gauche. Merde. On peut retarder le combat autant que vous voulez si vous tenez à rencontrer Green.
Ben, s'il s'agissait que de Green et le temps de préparation d'Apollo, qu'est-ce que vous en faites?
Oh, on va bien trouver une solution.
Une solution des clous. Vous avez intérêt à me trouver un challenger de poids et vite, monsieur Ergens.
Ne faites pas d'arnaque à mon client. Apollo a déjà investi $1 million de publicité. Il a pris des contacts très précis avec 20 autres organisateurs. Alors il n'est plus question de reculer.
J'ai essayé d'avoir tous les challengers valables, mais ils disent tous la même chose. 5 semaines, c'est pas assez comme temps de préparation.
Ah, tu parles, c'est bidon, ils ont les foies, oui. Ils savent que le monde entier va regarder ce combat, il n'y en a pas incapable de me battre. Et c'est pour ça qu'ils trouvent des excuses, ils veulent pas être le mec qui prend une branlée devant le monde entier.
Tout ce que je sais, c'est que j'ai une bonne image de marque. J'ai mis sur pied des matchs de boxe dans tous les azimuts et je me suis décarcassé comme jamais pour votre combat. Mais là, franchement, je ne sais plus quoi faire.
Moi, je sais. Puisque j'ai pas de challenger valable, il me faut autre chose.
une nouvelle recrue. L'Amérique est le pays où l'on donne à chacun sa chance. Alors Apollo Creed, le 1er janvier, donnera à un ringard de 3e zone sa première chance. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que je suis un sentimental. Dans ce pays, la plupart des gens sont aussi sentimentaux que je le suis. Et rien ne les emballera plus que de voir Apollo Creed offrir à un Philadelphien le moyen d'aller rafler le titre de champion du monde pour l'anniversaire de l'indépendance. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que ça va se passer.
Et on vient d'entendre Carl Weathers, Apollo Creed, voilà, dans un de ces textes dont Sylvester Stallone a le secret. Et alors, ensuite, il y a eu Rocky 2, Rocky 3 avec Mr. T et Rocky 4. Et c'est également aussi une évolution de la carrière de Sylvester Stallone, Jean-Baptiste Toussaint.
Oui, parce qu'à partir du 3, ça devient un Stallone assez différent, finalement, parce que ça devient une grosse star aux États-Unis, au même titre qu'Arnold Schwarzenegger. Un degré moins de Jean-Claude Van Damme, tout ça, mais ça devient des grosses figures de l'Amérique réganienne. Et du coup, on n'a plus vraiment les mêmes Rocky. C'est-à-dire que les deux premiers Rocky peuvent s'apparenter à des films d'auteur. Or, le troisième, quatrième, là, on est vraiment dans le blockbuster pur avec des gros tubes.
Il y a eu notamment l'arrivée des MTV aussi. Donc, il y a quelque chose de très clippé. L'omniprésence du montage.
C'est ça, des flashbacks, des clips, tout ça, les corps très huilés sur les posters.
Donc
on est vraiment dans une saga complètement différente. Voilà. Pour moi, j'ai toujours dit qu'il y avait trois, quatre sagas différentes dans Rocky. Les deux premiers, le 3, 4, 5 sont un peu des blockbusters. Après le retour, et enfin maintenant Creed qui ouvre une nouvelle voie parce que finalement Rocky laisse la place. Et voilà, donc ça qui est intéressant dans cette franchise, c'est que finalement quand on la suit dans son ensemble, elle se décompose en plusieurs parties.
Et il y a eu le drame Rocky IV qui est en fait un vrai film, je dirais frontal, en pleine période de guerre froide, réganien. C'est pas le film le plus subtil du monde.
Non, mais je trouve que le film est réganien malgré lui, parce que justement cette récupération qu'a eu Reagan par rapport au personnage de Rocky, moi je trouve qu'elle est absolument pas cohérente avec ce qu'est ce personnage-là. Il retourne justement. Encore une fois, je disais que Rocky n'est pas vraiment le moteur à chaque fois dans l'action. Là, il retourne dans le 4 parce que Apollo est mort, donc il va se battre contre Drago pour le venger. Mais sinon, il irait pas spécialement. Alors évidemment, comme on est dans une époque de guerre froide, on a tous ces clichés un peu sur la Russie, sur le côté on s'entraîne dans la neige et il se dope et
pas de sourire.
Et tout c'est voilà, et vraiment le très méchant contre le gentil. Mais moi, je pense que Rocky, quand il est dans le drapeau à la fin, le drapeau américain, il est pas spécialement là pour représenter les États-Unis, il est juste là pour être quelqu'un qui est dans son pays. Ça marcherait avec la Belgique ou n'importe quoi. Et cette récupération qui a été faite du personnage, il a toujours été contre Stallone d'ailleurs à la base, en disant c'est avant tout quelqu'un qui vient d'un milieu prolétaire et qui se bat, qui essaie de s'en sortir. Comme a été Stallone, hein, le simple fait qu'il ait une paralysie dès la naissance a été un combat permanent pour lui pour devenir comédien. Donc le côté méta est vraiment troublant et hyper intéressant dans la saga.
Et bien justement, Rocky 4, disons qu'en France, cette propagande, il y a des gens, ils n'aiment pas.
On excite les gens, ça c'est sûr. Ça va remplir les salles de muscles, bien sûr. On pousse les gens à se gonfler les bras et puis peut-être se dégonfler un peu la cervelle, je sais pas moi. Pour moi, Stallone, c'est le combat de trop.
Dire que c'est bien fait, c'est vrai. Il y a les moyens, on fout le paquet, il y a du punch. C'est bien le moins pour un film de boxe. Mais je trouve que c'est complètement simpliste. Et à la limite, je sais pas, moi j'ai l'impression que l'homme de Cro-Magnon s'y revenait, il trouverait effectivement qu'il est un grand intellectuel par rapport à ce qu'il voit à l'écran en 1985. Bah, je trouve ça terrifiant.
Regarde ça en tant que boxeur, oui. Je dis on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est faire comprendre aux gens qu'on est quoi? On est des robots, qu'on s'entraîne à encaisser. Un boxeur, il s'entraîne avant tout à esquiver les coups. Ce qui est débile, c'est qu'il n'y a aucune esquive, et puis c'est un chemin du monde, et puis tout ce qu'il y a autour, c'est cette fanfaronnade, c'est cette débilité, malgré tout, on peut appeler ça
mais
comme
mais
ça.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas le combat bien filmé?
Pas du tout.
Ben moi, c'est la première fois depuis bien longtemps au cinéma, effectivement, que j'ai vu dans un film des références, qu'elles soient volontaires ou involontaires, j'en sais rien, au pire cinéma nazi ou stalinien. Je ne dis pas que Staline, ça serait trop facile, mais c'est vrai que là, plus riganien que moi, tu meurs, c'est le cas de Stallone, et je crois que il joue un peu à l'apprenti sorcier.
D'abord, Stallone, c'est absolument pas possible, mais son challenger soviétique, qui est un Suédois, je crois d'ailleurs, dans la réalité, c'est pas possible non plus. Moi ils me font peur, l'un et l'autre, et lui
c'est
et sa femme sont d'énormes morceaux à l'œil vide, gonflés aux anabolisants, c'est absolument pas possible. Alors ça, je ne pense pas que ce soit pour faire une gâterie à l'Union soviétique qu'on ait choisi un monstre pareil, c'est un monstre.
Plus ça va, plus les Stallone, c'est du lavage de cerveau, justement. Ça, c'est l'anti-américanisme primaire, mais c'est vraiment incroyable. C'est tellement bête, moi, je trouve que ça n'est merveilleux. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Bon, alors le point Godwin a été très très rapidement atteint. Donc que dire par rapport à de telles déclarations, Alix Dulac?
Sur la partie politique, la récupération politique de ce film, moi je l'ai vu très jeune, ce Rocky 4. Et c'est parti de mes préférés. Quand je les ai revus, honnêtement, j'ai un peu compris pourquoi les gens ont un petit peu râlé, etc. Mais faut surtout savoir que Drago, il est monté au rang de super méchant. Et je sais pas pour mes collègues autour de la table, mais moi quand Rocky le couche à la fin, j'étais comme un fou chez moi, quoi. J'étais là à mettre des patates dans le vide en me disant couche-le, comme j'ai rarement été comme ça pour un film. Donc vraiment je trouve très dur, parce que alors ok, il y a le gros stéréotype sur les Russes qui ne sourient pas, qui ont le visage vraiment carré, sombre, etc., ténébreux, mais au-delà de ça on a vraiment tu disais Dedo dans le 3, on oppose à Rocky véritablement un méchant. Là c'est un super méchant, quoi, presque un surhomme. Et là Rocky doit,
oui, avec des phrases très courtes et iconiques, voilà. Genre je vais te briser.
Voilà, bon, ça maintenant on va bien rigoler, mais ce que je veux dire c'est que quand on regarde encore ce film, on se rend vraiment compte que Drago c'est quelque chose, c'est un véritable gros morceau. On est même en train de se dire mais Rocky va se faire pulvériser malgré son entraînement qui est juste dantesque, l'un des meilleurs pour moi de la saga, complètement incroyable. Mais voilà, bon, moi j'ai vraiment trouvé que Drago était le super méchant dont on rêvait dans Rocky, quoi. Donc, j'ai trouvé un petit peu dur.
Et d'ailleurs, parlons de ces combats Rocky 3 et Rocky 4. On est passé dans des combats extrêmement spectaculaires où chaque coup provoque des gerbes de sang et de sueur. Et c'est vrai qu'on est presque arrivé à l'affrontement des super-héros là.
Mais surtout qu'en plus dans le 4, Stallone expliquait récemment que Dolph Lundgren avait failli le tuer parce qu'il lui avait foutu des coups dans les côtes, près du cœur. Du coup, il a cessé de respirer, il a passé une nuit aux urgences et les médecins lui avaient dit que après, il pouvait mourir. Donc, Stallone a toujours voulu dans ses combats qu'il y ait des vrais coups. C'est ce qu'il disait aussi à Mr. T. Il disait n'aie pas peur de cogner, n'aie pas peur de frapper, parce que je veux que ça fasse vrai, en fait. Et récemment, j'avais vu des images de tournage behind the scenes du premier combat entre Apollo et Stallone, et c'est impressionnant parce qu'on sent que il y a des vrais coups qui partent, quoi. Donc ça c'est réel. Et pour revenir sur les critiques que j'ai entendues juste avant, ça me fait assez rire, parce que il y a un type qui dit surtout ils ont rien compris à la boxe, parce que la boxe c'est pas encaissé, c'est esquivé. Et j'adore ce genre de critique, parce que les gens souvent oublient que c'est un film.
C'est un boxeur qui dit ça.
C'est un film, en fait. C'est-à-dire que quand on fait un film, on peut tout se permettre. C'est pas la réalité, c'est un film. Donc, voilà. C'est comme les gens qui disent ah mais il y a des extraterrestres dans ce film, or on n'est pas sûr que ça existe. C'est un film. Voilà.
Et alors ensuite, il y a Rocky V, Alain Dorval, où il tourne avec son propre fils, Frank Stallone Jr.
Ouais, mais il y a une chose que je trouve étonnante, c'est le rapport qu'il a à la boxe. Moi, j'avoue que j'admire les boxeurs, mais je ne supporte pas la boxe. L'idée de taper sur la gueule de son contemporain, c'est... Je peux pas. Bon, je peux pas le voir tomber. Mais parce que je suis d'une sensiblerie extravagante. Mais c'est comme ça. Alors maintenant, ce qui m'amuse, c'est ce que vous disiez par rapport à Drago. L'Union soviétique n'existe plus, mais dans le portrait que vous avez fait de Drago, on a le même en plus petit, il s'appelle Poutine.
Et moins costaud.
Dans le genre méchant qui ne rigole pas, tu vois,
fait du judo.
Qui peut être éventuellement dangereux et qui met en avant la force physique, l'exaltation de tout ce qu'il y a dans le Rocky IV. Poutine, c'est une question Rocky intéressante, sans l'Union soviétique.
C'est beaucoup de gens en Occident qui disent oui, c'est une mauvaise image de la Russie, mais qui dit, ça serait intéressant de se renseigner, qui dit que pour les Russes, l'image d'un personnage comme Drago, c'est pas une image un peu flamboyante, parce qu'il est quand même impressionnant dans le Lundgren.
Non, mais la différence, c'est qu'à l'époque, c'était l'Union soviétique.
Oui.
Aujourd'hui, c'est la Russie, ce qui n'a rien à voir. Hein. Enfin, ça n'a rien à voir. Même si la Russie était quand même en tête de l'Union soviétique et écrasait tout le monde. Mais on est au bord de la guerre des étoiles de Reagan. Hein. En fait, c'est pas par la force que Reagan a tué l'Union soviétique, c'est en jouant au poker et en faisant un tapis que les autres pouvaient pas suivre. Gorbatchev l'a très bien expliqué dans son bouquin Perestroïka. Hein. Il a dit « je peux pas suivre ». Voilà, il l'avoue.
Ouais, après, Reagan était beaucoup dans la récupération, et d'autant plus avec Stallone, parce que quand le personnage de Rambo dans First Blood est sorti, Reagan l'a récupéré en disant « Ah, ça, c'est un vrai républicain ». Donc, c'est dire à quel point il n'avait pas compris le personnage, parce que Rambo républicain, il faut vraiment être loin de ce qui s'est passé, alors que c'est un personnage profondément anti-vietnamien, vu qu'il revient justement de cette guerre-là. Donc voilà,
anti-guerre du Vietnam.
Anti-guerre du Vietnam, bien sûr.
Ah bah, très clairement.
Donc, après, Reagan... on n'est pas là pour parler politique, mais la politique de Reagan était quand même très axée sur des valeurs... des valeurs très proches de Trump, quelque part.
Oui, voilà. Enfin, le fait que... Qu'est-ce qui se passe avec Rambo quand il arrive dans ce village? on veut le shérif et les gens du village n'acceptent pas qu'il y entre parce que simplement il a fait la guerre.
Il a fait la guerre.
Bien sûr. Mais il a fait la guerre, on ne sait pas s'il était engagé ou si simplement il était appelé. Il y en a quand même un certain nombre qui sont allés et qui n'avaient pas envie d'y aller.
Non, mais c'est l'histoire d'un non-retour. Hein.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'âge du shérif, l'âge de tous les mecs qui sont autour, sont des mecs qui étaient trop vieux pour aller au Vietnam et trop jeunes pour aller en Corée. Ils sont passés au travers, ceux-là. Et ils en veulent à ceux qui y sont allés. Mais ils y sont allés pour l'Amérique, on est d'accord ou pas, c'est un autre problème. Mais ils sont allés parce qu'on leur a demandé d'y aller, pas pour le plaisir. Donc c'est quand même étonnant.
Pourquoi tu veux le combattre ?
De quoi tu parles ? Je te l'ai dit, pourquoi ?
Non, tu me l'as pas dit. Pourquoi tu veux le combattre ? Je sais pourquoi eux, ils veulent te combattre, je sais pourquoi ils se battent, mais toi ? Écoute-moi, toi, t'as tout à perdre. Tout, alors que lui, il a rien à perdre. Quand un boxeur n'a rien à perdre, il devient dangereux.
Moi, je suis dangereux. Tu crois que je vais perdre ?
J'ai pas dit ça.
Tu m'as dit qu'il était sans aucune expérience. Rustre, c'est ça ?
Ouais.
Mais tu crois qu'il va me battre ? C'est ce que t'essayes de me dire ?
Non, non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire que je serais pas toujours à tes côtés.
Qu'est-ce que t'entends par là ? Explique !
J'entends par là que tu devrais bien réfléchir.
Ah, tu veux qu'on parle des bons choix à faire ? T'étais cloîtré chez toi tout seul ! Qui s'est occupé de toi ? Moi ! J'étais là pour toi ! Qui d'autre t'a ? Écoute... Ce combat, je vais le faire, avec ou sans toi.
C'était un extrait de Creed 2, la suite officielle de Rocky, où Rocky rempile en tant qu'entraîneur d'Adonis, le fils d'Apollo Creed. Et alors, Alex Dulac, c'est aussi une sorte de remise à jour, remise à niveau d'un nouveau Rocky, d'un nouveau mythe Adonis Creed.
C'est ça. Oui, totalement. En plus, partant de rien. Donc, bon, je sais pas si on sera tous d'accord, mais on nous invente un fils. Bon, c'est très américain d'aller nous chercher un personnage derrière les fagots. Je trouve qu'ils se sont bien tirés. Ce départ, moi, quand j'ai vu le script d'origine, je me dis, oh là là, mon Dieu, je vais y aller, mais j'y crois pas du tout. Ça va être mal fagoté. Faut se dire que j'ai sorti des expériences de Rocky 5 et de Rocky Balboa que j'avais pas forcément apprécié. Puis finalement, Creed 1, très bon film de boxe, je trouve. Vraiment excellent.
Réalisé par Ryan Coogler, voilà. Qui a fait Black Panther également.
Creed 2, je l'ai trouvé un petit peu en dessous en termes de réalisation, mais par contre, j'ai trouvé que c'était un très bon Rocky. Là où Creed se détachait, reste dans la saga, mais se détachait un peu des autres pour être vraiment un film très très boxe, quoi. Avec une réalisation très punchy, des vrais boxeurs aussi qu'on voit. J'ai adoré la scène où il affronte plusieurs boxeurs. On voit leur poids, taille en mode ESPN. Enfin, c'est génial, quoi. Voilà.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que tu dis Creed 2. J'ai trouvé que c'était un très bon Rocky. C'est dire à quel point le personnage de Rocky prend presque le pas sur le personnage du fils d'Apollo.
Mais tout à fait. Mais d'ailleurs, en fait, ce qui est vraiment frappant dans les deux Creed, c'est de voir tout ce que ça convoque émotionnellement, à la fois pour le personnage, c'est-à-dire que quand il regarde une photo où on voit Apollo Creed ou qu'il est devant la tombe d'Adriane et de Polly, le spectateur. Et avec Rocky, c'est-à-dire qu'il connaît ses personnages, on les a vus vieillir, puis disparaître. Donc il y a une charge émotionnelle que beaucoup d'autres films n'ont pas. Et il y a aussi cette absence du fils qu'on connaît, qu'on a vu dans Rocky Balboa, joué par Milo Ventimiglia.
Ouais.
Et effectivement, on s'interroge pourquoi il n'est plus là. Et il y a quelque chose dans ces deux films de presque plus émotionnel que la boxe. Et c'est vrai que Rocky... vole le film un petit peu.
C'est ça, parce qu'en fait, tout à l'heure, on disait
Jean-Baptiste Toussaint.
Sylvester Stallone aime les gens, mais nous, on aime Rocky. C'est un des personnages, c'est un des héros les plus appréciés de l'histoire du cinéma, Rocky. Si bien que quand moi, je vais voir Creed, j'ai un peu plus de mal dans le sens où j'attends les scènes avec Stallone, en fait. J'attends les scènes avec Rocky, et là, par exemple, dans le dernier Creed 2, j'étais ému quand je le voyais, parce que il était touchant, parce qu'il était vieillissant, tout ça. Et moi, c'est plus les parties où il y avait Rocky qui m'intéressaient, plus que les parties qu'avec Creed, parce que finalement, le 2, il suit une trame très rockienne, si on peut appeler ça comme ça. Mm-hmm. Quand je vois Creed 2, j'ai l'impression d'avoir vu un condensé de tous les autres Rocky, la première défaite, puis après on revient un peu plus fort, puis on bat le méchant. Bon, voilà, c'est un vrai classique.
Mais il y a une raison à tout ça.
Un adorable.
Dans le Creed 1, Stallone n'est pas intervenu dans le scénario. Le Creed 2, il est co-scénariste.
Ah oui.
Pourquoi on a vraiment le sentiment de voir de nouveau un Rocky dans celui-là. Moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est que Rocky, finalement, il est omniprésent dans le film sans l'être. Il le disait très bien, c'est-à-dire qu'on attend avec impatience les scènes où il va être là. Mais ce qui est intéressant, c'est la relation qu'il a avec Adonis. On retrouve un peu, alors toute proportion gardée, le pouvoir, enfin l'influence qu'avait Adrienne sur lui. Rocky, c'est vraiment l'élément déclencheur. Même si Bianca va intervenir, va aider Adonis, c'est vraiment Rocky à chaque fois qui insulte la bonne énergie, le bon conseil, la bonne ligne directrice à Adonis. Et ça se ressent. Alors, dans le premier, je reviens sur ce que je dis, je trouve vraiment que c'est un film très très centré sur la boxe, donc qui sort un peu du cadre des Rocky habituels. Mais dans le deuxième, ça se ressent d'autant plus. Alors évidemment, vu le scénario, il a battu Drago, donc voilà, il est forcément impliqué. Mais je trouve vraiment que il aurait pu rester dans le rôle qu'il avait un peu dans le premier, un peu en retrait, et ça suffisait. Et ben non, il est là, vraiment en mentor, en étant pas là au départ. Voilà, histoire aussi de montrer à Adonis les erreurs qu'il va commettre, et en étant là au moment important dans le film.
Et surtout, ce qui est intéressant dans l'écriture de Stallone, c'est que dans le Creed 2, limite, on se prend d'affection pour le méchant un petit peu,
oui.
Parce que c'est le fils de Drago, puis on se rend compte qu'il est pas vraiment là à sa place, limite il nous fait un peu de peine, et du coup il y a des sentiments un peu ambivalents, parce qu'on a envie que Creed gagne, mais on a aussi envie que le méchant gagne, c'est plutôt assez...
Mais c'est un père abusif, Drago.
Ah bah oui, complètement,
la scène du dîner, elle est assez...
Exactement.
Elle est assez horrible. Hein,
mais c'est dire à quel point la saga de Rocky est exceptionnelle, c'est qu'on a suivi des personnages donc très bien écrits pour Rocky, mais aussi des personnages secondaires sur 40 ans. Et ça n'a jamais été fait de voir justement ces personnages-là vieillir, souvent mourir, et carrément là, voir les enfants de certains personnages iconiques revenir sur le devant de la scène. Donc en termes d'écriture et en termes de transmission au grand public, c'est phénoménal. Et les gens s'en rendent pas assez compte. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais Bill Conti joue un rôle prépondérant dans cette saga.
Le compositeur de la musique.
Les grosses têtes avec RTL ont fait beaucoup de mal à I'm Gonna Fly Now, mais c'est quand même un titre fabuleux. Et cette chanson et cette BO en particulier du 1 et ensuite qui a été développée dans les autres axes de la saga est forte. C'est-à-dire que juste en entendant certaines notes, on se remet dans ce qui s'est passé pour le personnage. Et c'est vraiment un alliage total. Pour le premier, John Avildsen à la réal a été vraiment prépondérant. Et ce score est incroyable.
Et c'est le roi des films de baston, parce qu'il a aussi fait Karate Kid.
Bien sûr, et avec Bill Conti d'ailleurs, qui était aussi à la BO. Ouais. Donc ce duo-là fonctionne très bien.
Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur. Mais avant cela, on écoute Mike Will Made It, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, qui nous interprète The Mantra, extrait de la BO de Creed 2.
Mais c'est vrai qu'il n'y a plus Adrian. In the way, minus sign, niggas in the way. Yeah. In the way, minus sign, niggas in the way. Yeah. In the way, yeah. Minus sign, niggas in the way. But they will not get none off. In the way, minus sign, niggas in the way. They will not get nothing off. In the way. It's funny to watch him there attempt at blocking, but they will not get none off. He's watching me, they will not get none off. The stars will keep falling like asteroids, we falling, so they will not get none off. Watching me, if it ain't a half a million in the face, far as I'm concerned, it's in the way. If it ain't a half a million when you race, far as I'm concerned, it's in the way. If you're good, we're good, not great. Far as I'm concerned, it's in the way. No remora on the G5 plane. Far as I'm concerned, it's in the way. You can't fall back to sleep once you awake. Far as I'm concerned, it's in the way. You ain't supposed to worry about it when you pray. Far as I'm concerned, it's in the way. If what you're doing don't help you elevate, far as I'm concerned, it's in the way. If you don't share the culture, you shouldn't play. When you play, far as I'm concerned, it's in the way. Hey, they will not get none off.
Switch.
Yeah, my life switch.
What a crisis. crisis. My Blacksville with no license.
No license.
I was lifeless, I was dead weight, I was trifling.
I was trifling.
Then my eye twitched, then my hair shook, and my fist balled on my right wrist. Took a wrist for us, saw lightning, then made titans.
I was trifling.
With a pitchfork, we ate your food, they got bent more with exa.
I'm too high profile to drive Lambo. That there is a scandal. That man grab a handful. Huh? Never been love easy. Better pull up, baby. I got a thing for. I wanna fuck freaky. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up. And you pretend you ball, huh? I'ma do this for my dog. You need a life jacket. Throw you in the deep end. This start my target practice. Never been love easy. Better pull up, baby. I got a thing for.
They will not get none of. Yeah, all that they talking, that is blessing blocking, so they will not get none of.
In the way,
he's watching me.
Niggas in the way,
they will not get none of.
In the way,
that bulletproof aura, knowing God is for you, so they will not get nothing off
in
you.
The way.
Yeah, yeah, watching me.
Niggas in the way.
C'était The Mantra, et maintenant on joue.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Et aujourd'hui, on a Patrick au téléphone. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors, vous êtes fan de Rocky?
Ah oui, complètement. Complètement.
Est-ce que vous avez un épisode préféré?
Je dirais que ça serait Rocky 2, parce qu'il débute par le plus incroyable générique qui enchaîne directement avec la fin du premier.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous connaissez le principe du jeu ?
Oui.
Je vous pose 3 questions, 25 secondes chrono ou un peu plus. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix.
D'accord.
C'est parti. Dans le tout premier film, celui de 1976, qui entraîne Rocky ? Réponse A, Clubber Lang. Réponse B, Mickey Goldmill. Ou réponse C, Mason Dixon.
C'est Mickey.
Bah, évidemment, c'était Mickey Goldmill, un ancien boxeur. Bon, on a commencé gentiment, on va accélérer le rythme maintenant. Question suivante. Quel était le surnom de Rocky ?
L'étalon italien ?
Oh, bah oui, c'est ça, l'étalon italien. Hein, c'est un sobriquet voilà, qui vient d'ailleurs de la carrière de Sylvester Stallone quand il galérait.
Oui.
Et qu'il a joué dans des films érotiques et c'était comme ça quoi.
Dans un film érotique en tout cas, oui, effectivement, il avait ce petit patronyme intéressant.
Oui, oui, voilà, on ne cherchera pas à creuser le sujet.
Sûrement les cheveux.
À présent, nous allons vous diffuser un son. On écoute. Qui interprète cette chanson de Rocky IV ?
C'est James Brown.
Eh ben voilà. Et le titre, vous l'avez ?
Living in America.
Ouais. Mais c'est un sans faute. Eh bien Patrick, vous avez gagné le hors-série du magazine Rockyrama dédié à Sylvester Stallone.
Merci beaucoup.
Merci à vous Patrick.
Et merci pour votre émission.
Ben, merci de l'écouter surtout.
Merci.
Alors j'aimerais qu'on revienne avec les invités sur Creed, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est que je disais hors antenne que la boxe c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que dans Creed il y a aussi des problématiques qui concernent tout le monde, c'est-à-dire la gestion de la maladie, le cancer, et puis aussi la naissance d'un enfant avec un handicap, hein, ayant moi-même été concerné. J'avoue que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des films dits de grands spectacles, Jean-Baptiste Toussaint.
Oui, et surtout ça met en lumière les valeurs que sont censées apporter. Enfin, qu'apporte Rocky, parce que pour moi je trouve que ce film a toujours eu valeur d'éducation, enfin cette saga a eu valeur d'éducation parce que ça apprend quelque chose tout au long de la saga, à savoir la négation, ne jamais abandonner et malgré les difficultés qu'on peut avoir dès le départ, continuer, se relever, ne jamais rester au sol, et c'est ce qu'essaie d'expliquer Stallone finalement dans toute cette saga. Voilà, quand on a des problèmes au départ, on peut les surmonter quoi qu'il arrive avec du courage et de l'abnégation.
Merci à tous. Alain Dorval,
il y a quand même une chose que moi j'avais trouvé très étonnante, je sais que vous n'aimez pas le 5, mais il revient, après son match avec Drago, il revient cassé. Et c'est une chose dont on ne parle jamais au sujet de la boxe. Alors on commence à en parler maintenant au sujet du football américain, les commotions dans le rugby, etc. Et on ose dire qu'un boxeur peut être cassé.
Tout à fait. Merci Alain Dorval, Alix Dulac, Jean-Baptiste Toussaint, Dedo. Merci d'avoir été avec nous. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, parce que ça nous fait toujours plaisir. Hein. Il y a également la page Facebook de l'émission ou Twitter avec le hashtag à Blockbuster. Effi, n'hésitez pas, je vous le rappelle, c'est aussi votre émission.
Ça n'a aucune importance si jamais je le perds ce match. Ça n'a
aucune importance que l'autre y mouve le crâne. Tout ce que je veux, c'est tenir la distance.